Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Oui, bonjour à tous, c'est samedi, c'est Mediapolis avec nos deux invités, Gérard Courtois, éditorialiste politique au Monde et auteur de Parti de campagne, la saga des élections présidentielles chez Perrin, et Anne Fulda, journaliste au Figaro et auteur de la biographie d'Emmanuel Macron sous le titre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait chez Plon. Et pour commencer, comme d'habitude, ça lance notre premier sujet. Il s'appelle Canteloup, il en rigole.
Allez, un mot de la question que se pose la justice. Comment Mediapart s'est-il procuré les enregistrements d'Alexandre Benalla? Le mieux, c'est de demander à son directeur, Edoui Plenel. Bonjour Edoui.
Je n'ai rien de plus. Bonjour. Ah. Oui, j'ai la même moustache que les Dupont et Dupont. Ah.
Alors le JDD laissait entendre hier que ces enregistrements étaient professionnels et pouvaient même venir de services secrets.
Écoutez, je n'ai pas à révéler mes sources. Je dirais même plus, allez vous faire foutre.
Non mais, on a le droit de se poser la question quand même sur l'origine de ces enregistrements.
Mais pas du tout, je dirais même plus, il en est hors de question. Un vrai journaliste est indépendant.
Ah ouais.
Et votre question prouve la connivence entre la presse et le pouvoir.
Mais non, enfin, mais qu'est-ce que vous racontez?
Mais non, eh bien si. Et j'ai un enregistrement. Écoutez plutôt. Ah. Oh.
Ça marche pas.
Allô? Nico, c'est Emmanuel.
Ah, c'est vous. Bonjour patron.
Bonjour patron, vous dites Nico?
Dis donc frérot, j'ai regardé The Voice samedi avec Brigitte. C'est chouette. Il est bien le bof de Julie. Julien Clerc, là, il est comment dire, il est moderne. Tu sais quoi, il me rappelle Gérard Collomb.
Oula.
Tu veux quand même pas lui trouver du gronzant ou de la coke pour qu'il parle un petit peu plus vite?
Oh, allez.
Ok patron. Je vais y remédier au plus vite. Comptez sur moi, patron.
Bon, écoutez, on va arrêter cet enregistrement. C'est n'importe quoi, Edoui Plenel, allons.
Et voilà, on met encore ma parole en doute et quelque part la parole en doute de Mediapart. Si c'est comme ça, mais vous savez quoi, je m'en vais. Je dirais même plus, au revoir.
Et oui, c'était donc Nicolas Canteloup sur Europe 1 lundi dernier. Alors, beaucoup d'aspects de l'affaire Benalla 2. Mais je voudrais poser une première question sur justement faire des enregistrements de ce type et les diffuser. Et pour cela, je voudrais vous lire un extrait d'un entretien de Éric Dupond-Moretti dans le magazine Causeur. Je me fiche pas mal de l'affaire Benalla, je la connais pas et je veux pas la commenter. Mais je n'ai pas envie de vivre dans une société où quand je prends un verre avec un type dans un bistrot, je suis susceptible d'être enregistré de manière crapoteuse et de voir ensuite cet enregistrement diffusé par Monsieur Plenel. Un peu plus loin. Quant à la défense de Fabrice Arfi, elle laisse songeur. Les conversations de bistrot ne relèvent pas, selon lui, de l'intimité de la vie privée. Quand l'intimité de la vie privée commence-t-elle pour Mediapart? Quand on franchit le seuil du lit? Et encore un peu plus loin. C'est cela l'ère de la transparence. On a ennobli les délateurs qu'on appelle désormais les lanceurs d'alerte. Quand Plenel écrit au procureur pour exiger des poursuites contre Cahuzac. Quand dans l'affaire Bettencourt, il explique qu'une ordonnance de non-lieu est une preuve de culpabilité. Quand Fabrice Arfi écrit que c'est un mauvais signal pour la société que Cahuzac n'aille pas en prison, ils se comportent comme des flics et se prennent pour des juges. Et enfin, ces méthodes sont indignes, dégueulasses, staliniennes. Toute la presse devrait être vent debout contre elles. Ben, au moins, c'est envoyé. Gérard Courtois, est-ce que vous partagez au moins partiellement cette appréciation?
Au moins partiellement, absolument. Mais seulement partiellement. Parce que si on récuse le travail des lanceurs d'alerte, quel qu'il soit, que ce soit sur des affaires politiques, sur des affaires financières ou sur des affaires liées à l'action de lobbies puissants dans le milieu industriel, on passe, et on le sait, à côté de tas de choses.
Et l'enregistrement d'une conversation privée dans un bistrot ou dans un appartement?
Personnellement, ça me choque. Voilà.
Anne Fulda?
Ah oui, je trouve ça très troublant. Vous savez, ça me fait penser à ce film La vie des autres qui se passait en Allemagne de l'Est.
Magnifique
et où on voyait,
film.
Magnifique film, on voyait des gens écouter. C'est-à-dire, finalement, est-ce que la fin justifie toujours les moyens? Même si, effectivement, on peut se dire qu'il y a des affaires qui méritent d'être révélées. Mais il y a des limites. C'est un peu la pureté dangereuse, quand même. Là, je trouve qu'on franchit des limites qui sont inquiétantes et je suis assez d'accord avec Éric Dupond-Moretti.
Il y a juste un point sur lequel on ne peut pas être d'accord avec Dupond-Moretti, c'est quand il traite Plenel de stalinien.
Vous voulez dire pour une question d'erreur historique par rapport à Trotsky?
Exactement.
c'est assez fin comme nuance. J'étais obligé de la préciser pour ceux, nos auditeurs qui ne sont pas au courant de toutes les arcanes de l'extrême gauche de Naguère. Bon, sinon, deuxième point, si l'affaire de contrat signé pour la sécurité d'un oligarque russe au moment où il était à l'Élysée par M. Benalla était confirmée, ça, ce serait une affaire grave, non ?
Pour être tout à fait honnête, au mois de juillet, quand Le Monde a sorti, lancé l'affaire dite Benalla, et qu'on a titré une affaire d'État, il se trouve que j'étais en vacances à ce moment-là, mais ça m'a heurté. Je me suis dit, il pousse le bouchon trop loin. 8 mois plus tard, je pense que c'est effectivement, globalement, on peut qualifier ça d'affaire d'État. Pourquoi ? Parce que cette affaire a détraqué, déstabilisé et détraqué le système de gouvernement et le pouvoir du président de la République. Et ça rebondit de semaine en semaine de révélations, d'anecdotes ahurissantes, d'initiatives de ce monsieur Benalla, qui est un remarquable aventurier, manifestement, mais qui s'était installé au cœur du pouvoir dans des conditions tout à fait hallucinantes.
Mais Anne Fulda, est-ce qu'on ne peut pas considérer que tout n'a pas le même degré de gravité et que dans le fond, bon, l'utilisation de passeports diplomatiques, la révélation vraie ou fausse que le président de la République lui le soutient, n'est pas du même ordre de gravité, je maintiens le mot, que si conseiller du président de la République, au cabinet du président de la République, parallèlement, il négociait des contrats avec un oligarque russe.
Oui, c'est vrai que c'est... là encore, c'est troublant. C'est vrai que... On a là encore une impression de mélange des genres. Bon, on en a connu des personnages comme ça sous la Ve, mais là, c'est vrai que même si on peut s'attacher, relever le côté un peu romanesque du personnage qui a 27 ans, est assez étonnant par sa personnalité, sa manière de s'exprimer même. C'est vrai qu'à partir du moment où il a profité de sa position, non pas de conseiller, mais en tout cas de proche du cercle élyséen, pour signer des contrats, et ce, grâce à l'aide de quelqu'un qui était aussi quelqu'un de proche, Vincent Crasse de l'Élysée, c'est vrai que là, ça pose un problème.
Et vous qui connaissez Emmanuel Macron certainement mieux que nos auditeurs, vous pensez que dans ce cas-là, il est probable qu'il ait été au courant ou qu'il peut très bien ne pas avoir été au courant ?
C'est possible qu'il n'ait pas été au courant, très franchement. Enfin, je ne peux pas me prononcer, mais c'est très possible qu'il n'ait pas été au courant. Ça m'étonnerait qu'il puisse cautionner ce genre de méthode. Franchement, il n'est pas inconscient. Donc,
D'accord. Gérard Courtois ?
Non. Qu'il ait été au courant ou pas, on le saura peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne le sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça percute deux fondamentaux du pouvoir macronien, l'autorité et l'efficacité. Voilà, c'était quand même les deux engagements initiaux de Macron. J'exercerai pleinement l'autorité présidentielle. À l'évidence, il y avait des failles dans le système, et j'aurai un mode de gouvernement efficace, et à l'évidence, il y a également problème.
Et pendant ce temps-là, il y a une autre forte personnalité qui quitte le monde politique, et là, c'est même pas un suspense. En revanche, c'est intéressant de l'analyser dans 2 minutes.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi vos deux invités, l'éditorialiste politique au Monde, auteur de Parti de campagne, la saga des élections présidentielles chez Perrin, Gérard Courtois, et la journaliste au Figaro et auteur de Un jeune homme si parfait de chez Plon, Anne Fulda.
Et oui, la très courtoise Anne Fulda et le pas du tout fou Gérard Courtois. Et donc, nous avons appris que Alain Juppé avait décidé de se retirer de la politique et il l'a fait en lançant une appréciation probablement lucide et en tout cas sévère sur l'état de la politique. Écoutez, c'était jeudi.
Aujourd'hui, l'envie me quitte. Tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbale et physique, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites, dont tout pays a pourtant besoin, Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
Stigmatisation, infection, haine, les mots sont extrêmement violents. Est-ce qu'ils sont exagérés, Anne Fulda ?
Non, mais c'est un homme, Juppé, là, c'est un homme qui parle, qui est blessé, qui est presque, j'utiliserais presque les mots qu'avait utilisé Jospin, fatigué, usé, vieilli. En fait, il faut voir que c'est un homme qui...
Heureusement pour vous, vous n'êtes pas en campagne, hein, parce que ça vous ferait perdre des points.
Heureusement qu'il... Enfin, je pense qu'il parle, il fait un constat à la fois général sur le climat politique de ces derniers mois et aussi personnel. En fait, je pense que le Juppé qui parle, c'est le Juppé qui ne s'est pas remis de sa défaite aux primaires. Parce que finalement, celui qui est arrivé au pouvoir, Macron, c'est quelqu'un qui défendait ses idées, son positionnement avec 30 ans de moins. Et il le sait bien.
Quand vous laissez entendre, ce qui est probablement vrai, hein, je ne le conteste pas, mais quand vous laissez entendre que il y a dans ses propos beaucoup d'amertume, ça atténue en quelque sorte la valeur de ce qu'il dit. Or, ce qu'il dit est quand même assez largement vrai, non ?
Mais c'est vrai aussi. Non, mais je pense qu'il y a le constat général, le constat de l'atmosphère politique qui est vrai. C'est vrai. C'est un monde qu'il ne reconnaît plus, qu'il n'a pas connu. Et puis lui, il parle de... Il incarne les élites, non pas qu'il en souffre personnellement. Cela dit, il a sûrement été très atteint par la violence des manifestations des Gilets jaunes à Bordeaux. Bordeaux, qui était une ville plutôt jusqu'alors paisible, dont on reconnaissait... Il a été réélu quand même avec 60% des voix au premier tour. Et là, c'est un monde qui s'effondre. Donc je pense qu'il y a le mélange d'un constat général, une violence terrible, un monde qu'il n'a pas vu venir, et aussi le constat de la fin d'une carrière politique personnelle.
Gérard Courtois, donc, il faut être amer pour pouvoir dire la vérité quand on est un homme politique.
Moi, je ne l'ai pas senti amer, Juppé. Je n'ai pas senti d'amertume. J'ai senti presque l'inverse, une forme de soulagement de tourner la page d'un monde dont il dit au fond qu'il ne le comprend plus ou qu'il n'a plus envie de l'affronter. Son expression est très forte. Je n'ai plus l'envie. C'est terrible pour quelqu'un qui a eu l'envie pendant 5 ans, 40 ans.
Il y a un autre passage qui a été très fort. On va peut-être l'écouter parce que ce n'est pas si fréquent. C'est l'étendue de son émotion quand il évoque son lien avec la ville de Bordeaux.
Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi.
Et qui m'a tant donné en retour. C'est très, très...
Dans mon dictionnaire amoureux, qui porte bien son nom, j'ai voulu faire partager les sentiments que j'éprouve pour ma ville, notre ville, ses hommes et ses femmes. Je garderai en moi sa marque indélébile.
On dirait un homme qui vient d'être quitté par l'amour de sa vie. Quoi. C'est très, très impressionnant, c'est très sincère. Peut-être que sur tous les gens qui pensent si facilement, si rapidement, que les hommes politiques ne sont que intéressés, que corrompus, que assoiffés de pouvoir, ça devrait la faire réfléchir un peu quand même.
Il a eu une jolie phrase, il a dit « Je suis un grand sentimental, mais je me cache bien.
Oui. » Oui, mais les sentiments, justement, les sentiments ici, portaient à incandescence avec le territoire dont il est l'élu. C'est ça qui est très fort, qui existe très souvent en politique et dont les citoyens n'ont pas conscience.
Et pour Juppé, c'est essentiel, parce que c'est ce qui l'a humanisé par rapport aux années 70, 80. 90 même.
Bien sûr.
Le Juppé droit dans ses bottes est devenu, dans le microclimat bordelais et dans l'exercice d'une fonction locale et d'un contact direct avec des administrés, est devenu cet homme sévère, mais sage, apaisé et plutôt optimiste, me semble-t-il, dans sa conception de politique, même s'il reconnaît que ça n'est plus adapté au monde actuel. Mais voilà, il y a quelque chose de très fort dans la période bordelaise de Juppé.
Alors cela dit, médias politiques, on doit rendre compte de la médias politique de la semaine, y compris sur l'affaire Juppé. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déferlements de critiques sur les réseaux sociaux, notamment évoquant le fait qu'il avait été l'objet d'une condamnation en justice, comme si on considérait que... enfin, il y a deux façons de voir les choses. La première qui est de dire c'est quand même l'absence de culture juridique et civique que de considérer que quand on a été condamné, qu'on a purgé sa peine, de surcroît pas condamné pour rapt d'enfants, assassinat, mais pour avoir porté le chapeau d'affaires de financement politique. Bon ben voilà, ça n'empêche pas d'avoir d'autres fonctions. Ou alors au contraire, vous avez d'autres lectures, un peu par exemple sur cette antenne à la Vincent Hervouet, qui disait c'est inconcevable à la Cour suprême des États-Unis de nommer quelqu'un qui a eu la moindre condamnation judiciaire avant. Quelle est votre position là-dessus, Anne Fulda ?
Moi, je trouve que le problème, c'est au-delà d'Alain Juppé, c'est peut-être même cette tradition française de nommer des politiques au Conseil constitutionnel. Là, on voit bien, les trois nouveaux membres, ce sont des politiques. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on pourrait nommer des juristes.
C'est très intéressant,
confirmés.
Il y a trois positions là-dessus, sur le fond. C'est, sauf là, c'est un sujet qui est dans mon ancien domaine de compétences, dont j'ai quelques résidus. Première position, il faut mettre que des juristes. Ça, c'est évidemment la position des juristes. Et il y a quelques pays qui pratiquent ça. Donc, que des profs de droit, magistrats, etc. Deuxième position, non, non, ce qui est bien, c'est les politiques, parce qu'eux, au moins, ils connaissent le monde réel, les justices, ils font de la justice, les gens de la justice, ils font de l'abstraction, et après, ça nous coûte des milliards, c'est une catastrophe. Et puis la troisième position, équilibrée, mais qui n'est pas absurde, qui est de dire, le mieux, c'est vraiment d'avoir les deux,
panaché.
C'est-à-dire d'avoir des juristes solides, qui rappellent le droit, qui sont assez stricts dans les exigences du droit, et puis des gens sur le terrain qui disent, oui, écoutez, d'accord, mais s'il y a une autre interprétation qui évite de faire perdre 10 milliards à l'État, c'est peut-être plus raisonnable de prendre l'autre interprétation. Et ce qui peut être choquant là, c'est qu'on a nommé zéro juriste. C'est pas parce que deux des politiques ont été vaguement avoir l'étiquette d'avocat qu'il s'agit de juriste. Et donc là, pour le coup, moi, ce qui se trouve, qui pourrait choquer, c'est d'avoir nommé trois politiques. Non, ou rien n'a choqué, ou ce qui a choqué, c'est Alain Juppé,
c'est ça, ouais.
Alors que c'est pas ça le plus choquant. Eh bien écoutez, on est d'accord, ça arrive à Mediapolis.
Voilà.
Hein. Alors on va changer de sujet, histoire de retrouver un désaccord dans quelques minutes.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et ce matin, Olivier, vous recevez Anne Fulda, journaliste au Figaro, et Gérard Courtois, éditorialiste politique au Monde.
Et oui, et jusqu'à présent, nous sommes souvent assez largement d'accord, mais c'est pas pour ça que c'est pas intéressant. Alors maintenant, peut-être que ça va se compliquer un peu. Emmanuel Macron, président de la République, il a, si on regarde sa popularité et si on enlève les petites montées et descentes qui ne veulent pas dire grand-chose, il y a plusieurs phases. Il y a une première phase qui suit l'élection de mai à septembre 2017. Et là, la très très brève lune de miel disparaît aussitôt et il passe de 66% à 46%. En quelques mois, il perd les 20 points. Et surprise par rapport aux normes de l'évolution de la popularité des présidents, il remonte. Il regagne 7 points. En janvier 2018, il est à nouveau majoritaire à 53%. Là, une deuxième phase d'une chute ininterrompue où tout va de pire en pire. On dirait une station de radio qui va mal. 53% en janvier 2018, 45% en mai 2018, 31% en septembre 2018, 23% en décembre 2018. Du jamais vu, mais jamais 30 points perdus en une année. Et la surprise, nouvelle phase, décidément, c'est un jeune homme presque parfait, Anne Fulda, il remonte de 23% à 34% dans la dernière enquête IFOP du mois de février. Pourquoi est-ce qu'il est remonté dans ces trois derniers mois ? Qui commence ?
Moi, je veux bien répondre au pourquoi, mais je veux d'abord mettre un gros, gros bémol à ces 11 points regagnés dans la dernière enquête IFOP.
Ah oui, c'est quoi le bémol ?
Le bémol, c'est que si on prend la totalité des baromètres politiques, les 10 qui sont publiés chaque mois, il est remonté de 3,5 points.
Oui.
Depuis le mois de décembre.
Oui, mais moi, je prends le même baromètre, vous voyez, Gérard Courtois. Donc, prenez...
J'aime bien la moyenne.
Oui, vous aimez bien la moyenne parce que vous aimez l'arithmétique, et moi, je ne l'aime pas parce que je me trompe tout le temps. Mais la question n'est pas là.
Okay.
Si vous prenez même indicateur, ce que je dis fait sens.
Et
vous
ne pouvez
pas
dire
que c'est faux avec vos histoires de moyenne.
Avec 34%, voilà. Ça veut dire qu'il y a 66% qui ne sont pas d'accord.
Non, mais évidemment, puisqu'il y a 34, il y a 66 qui ne sont pas d'accord. Même n'aimant pas l'arithmétique, ça ne m'avait pas échappé.
Ce que je veux dire, c'est que il reste plombé par un manque de confiance ou une défiance extrêmement forte.
Il reste plombé, d'accord. Bon. Mais quels que soient les indicateurs qu'on prenne, pour la deuxième fois dans l'histoire d'évolution de sa popularité, il se déplombe un peu.
Pourquoi ? Parce qu'il a retrouvé l'attention, un peu, l'oreille des Français, à travers le grand débat.
Précisez, parce qu'il se déplombe parce qu'il a retrouvé l'oreille des Français, c'est quand même un pléonasme.
Non, et il était inaudible. Au mois de décembre, oui. Il était devenu totalement inaudible et paralysé, apparemment tétanisé par ce mouvement. Il a trouvé un moyen de sortir de l'impasse, c'est le grand débat. Il, au sens strict du terme, il retrousse les manches et il y va. Les gens considèrent que c'est un, courageux, deux, qui fait un effort pour écouter, comprendre, ils ne savent pas encore, mais en tout cas écouter. Et il le crédite de ça, c'est évident.
Oui, bah c'est évident. Je ne sais pas si je dirais qu'il est audible, parce qu'en fait, il n'y a pas de message précis qui sort de ces exercices démocratiques d'un nouveau genre.
Dans le monde dans lequel on vit, des gens sans message audible, il y en a en pagaille.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'effectivement, on le voit aller au moins parler à des Français, alors qu'on a eu l'impression pendant longtemps, on ne va pas répéter les critiques qu'on lui a faites d'arrogance, de mépris de classe, etc. Au moins, il s'y colle, il y va, il parle aux Français. Il faut faire attention à ce que ça ne tourne pas à une espèce d'exercice de hyper-médiatisation médiatique et un peu narcissique. C'est-à-dire que là, on en est à... il a visité 6 régions sur 13. Il y a
7,
encore...
je crois qu'on en est à 7 si on met l'outre-mer.
Alors, enfin, bon, pas. 7.
Bon, c'est qu'il en reste...
Donc, il en reste encore plus de la moitié, moins de la moitié. Donc, il y a un moment où ça va lasser. Mais c'est vrai qu'on lui sait gré de ça. On lui sait gré surtout d'avoir retrouvé... aussi une forme d'autorité qu'il avait, parce qu'il y a eu un moment, il faut se souvenir du début de la crise des Gilets jaunes, où le pouvoir a semblé complètement désarmé, dépassé, même chaos debout. Souvenez-vous de cette intervention crépusculaire, c'est le terme qu'on a tous dit, mais c'est vrai, en décembre, intervention au cours de laquelle il avait aussi quand même annoncé, c'est peut-être aussi l'effet de ces mesures annoncées, 10 milliards d'euros de mesures, qui commencent peut-être aussi à se faire sentir pour les Français. Ça fait peut-être aussi partie de ce qui explique la montée.
Maintenant, question plus difficile, limite stupide par l'étendue de sa difficulté. Donc vous répondez d'un mot, il va continuer à remonter ou pas ?
Il va continuer à remonter jusqu'au moment où il faudra qu'il réponde, qu'il apporte des réponses.
D'accord. Anne Fulda ?
Je suis désolée de penser la même chose, parce que vous allez trouver qu'on est terriblement consensuel. Néanmoins, c'est vrai que c'est la sortie.
Non, mais quand le Figaro et le Monde sont d'accord, il y a une petite chance que ce soit vrai, quoi.
C'est vrai que la sortie de ce fameux grand débat, le risque, c'est que la montagne accouche d'une souris. Donc c'est vrai qu'on l'attend au tournant.
Vous êtes terrible. On lance un truc qui n'a jamais existé. Ça s'appelle le grand débat. Ça dure pendant un mois. Et lancer un truc qui n'a jamais existé, ça s'appelle le grand débat. Ça marche. Il se passe plein de choses. Et vous êtes là, à mi-parcours, à ne pas arrêter de vous dire, et qu'est-ce qui va se passer après, et comment il va sortir, et comment il va sortir,
dans le grand débat, les gens y participent, et quand on lit les débats, ou quand on les écoute, les gens disent, maintenant, ok, on dit ce qu'on veut, mais on n'a aucune certitude, aucune garantie, et on l'attend au tournant.
D'accord. C'est pas pour ça que le grand débat en lui-même n'est pas un sujet passionnant.
Il est passionnant.
Il faut traiter et surtraiter.
Il est
et
passionnant.
Tout le temps se dire, ouais, alors qu'est-ce qu'il répond, qu'est-ce qu'il va décider.
On sait bien
chaque chose en son temps.
On sait bien que c'est ça l'enjeu et que c'est l'enjeu dans sa tête depuis le début. C'est comment je. Bon. Qu'est-ce que j'en fais.
D'accord. Alors puisque on sait ça, on va aller se promener ailleurs. Tiens, on va franchir les Pyrénées. Non, pas du tout les Pyrénées,
les Alpes.
Oui, les Alpes. Comment vous savez, vous savez tout, hein. Allez, dans quelques minutes.
Olivier Duhamel, vous recevez aujourd'hui dans Mediapolis deux invités, l'éditorialiste politique au Monde Gérard Courtois et la journaliste au Figaro Anne Fulda.
Et nos auditeurs reçoivent ce que Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, a repéré pour nous, un article du Wall Street Journal de Giovanni Legorano sur l'envolée de Salvini. Le week-end dernier, dans un petit village dans les Abruzzes, Matteo Salvini est venu saluer en capitaine un peuple qui a élu son candidat extrême droite, Marco Marcillo, à 48% des voix. Sa rhétorique anti-immigration, son discours anti-européen, sa personnalité terre-à-terre soulèvent les foules et ses élections régionales le confirment une fois de plus. Ses résultats pourraient bien apparaître annonciateurs de l'issue des élections européennes de mai prochain. Monsieur Salvini est une de ces personnalités extrémistes qui a le vent en poupe, capable de faire trembler l'Europe si le vent lui demeure favorable. Et dans la suite de l'article, il explique que pourtant il introduit un peu de pragmatisme dans ses relations avec l'Europe. Ce succès incontestable de la Ligue au détriment de son allié au mouvement des 5 étoiles en Italie, indépendamment des conséquences à court ou moyen terme en Italie qui peut-être mettent en jeu la stabilité de ce gouvernement, est-ce que ça n'est pas le signe supplémentaire d'une exceptionnelle poussée populiste en Europe, Gérard Courtois ?
Signe supplémentaire, indéniablement, oui. Après l'Autriche, après la Hongrie, la Slovaquie, après le Brexit, et j'en passe, on est dans je dirais pas un basculement, on n'en sait rien. On verra bien le 26 mai les résultats de l'élection européenne, mais on est dans une poussée indéniable et qui est, qui plus est, attisée attisée par d'excellents agents électoraux comme l'ancien directeur de campagne de M. Trump, parcourt l'Europe en encourageant. Son nom m'échappe, pardon.
Bannon,
voilà, Steve Bannon, en encourageant tous les populistes à renverser la table.
Et il y a des moyens de freiner ça ?
Bah oui, il y a des moyens. Ça s'appelle une élection, ça s'appelle une campagne électorale et ça s'appelle une campagne vigoureuse pour défendre un certain nombre de principes qui sont au cœur du projet et de l'enjeu européen.
Je vais reposer ma question à Anne-Fulda légèrement autrement. Est-ce que pour freiner ces poussées populistes, il faut leur concéder une partie de leur discours pour mieux se faire entendre, ou est-ce qu'au contraire, il faut contrer rigoureusement ce discours ?
Je pense que je ferai une synthèse des deux. Je pense qu'il faut contrer rigoureusement le discours en empruntant peut-être certains éléments de ce discours pour se faire entendre, ne serait-ce que pour se faire entendre par certains.
Et parmi nos hommes politiques,
si
j'en prends deux.
Raisonnable.
Si, pour rester sur votre motion de synthèse, contrer rigoureusement tout en empruntant une partie. Et je vais prendre deux hommes politiques français que vous connaissez, plus ou moins, mais un peu quand même, Macron, Wauquiez. Alors pour chacun des deux, vous diriez qu'ils font bien la synthèse ou qu'ils font trop l'un et pas assez l'autre ?
Macron commence à faire un petit peu la synthèse, l'air de rien. D'ailleurs, il faut se souvenir que pendant la campagne, on disait, et lui-même revendiquait une espèce de soft populisme, de populisme doux, pour parler quand même en français. Quant à Wauquiez, oui, mais alors lui, pour le coup, alors qu'il pourrait enfoncer toutes les portes ouvertes qui semblent s'apparenter au populisme, il ne se fait pas du tout entendre. Donc il y a un problème qui n'est même plus lié au discours, je pense, qui est lié à la personne même de Wauquiez. En fait, on est sur
la bonne synthèse, c'est Juppé qui l'a formulé.
La bonne synthèse, c'est de quitter la politique.
Non, c'est ça, oui. La bonne synthèse qu'il a formulée sur la question européenne, c'est de dire, voilà, l'avenir des nations européennes sont dans un projet européen, à condition qu'on fasse très attention au respect de l'identité de chacun.
Et ce qui est intéressant, pardon, juste une phrase, c'est effectivement le début d'international populiste. Quand on voit que Salvini apporte son soutien aux Gilets jaunes, on voit
bien justement, Paul Lassaigne, vous mettez la transition sur un plateau. Paul Lassaigne, qui prépare l'émission avec moi, nous signale cette semaine une nouvelle envolée du Gilet jaune révolutionnaire, et moi j'ajouterais frappadingue, Christophe Chalençon. Celui qui appelait sur Europe 1 le 3 décembre dernier à la démission du gouvernement et à la prise du pouvoir par le général Pierre de Villiers, celui-là même qui a déclenché la crise diplomatique entre la France et l'Italie, eh bien c'est à lui que le ministre italien Luigi Di Maio avait rendu visite. Il a été enregistré à son insu par une télévision italienne et encore une fois, il est question de militaires au pouvoir. Écoutez.
J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'ils me mettent une balle dans la tête, Macron, il est passé à la guillotine. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Élysée, il démonte tout. Lui, sa femme et toute la clique. On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Donc aujourd'hui, tout le monde est calme, mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit.
Ouais, c'était donc vendredi, j'irai jusqu'au bout de mes convictions. En deux mots peut-être. Hein. Et puis on a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir. C'est surtout ça le membre de la phrase le plus lourd et le plus... Et Christophe Chalençon était hier soir l'invité exceptionnel de Mathieu Béliard dans le Grand Journal du Soir sur Europe 1 et il ne regrette rien de ses propos. Il les nuance simplement en disant qu'il n'appelle pas directement à une guerre civile mais qu'il prévient. C'est d'ailleurs un vrai problème médiapolitique ça si vous voulez, parce que est-ce qu'il... Ne pas donner écho à ses propos, c'est ne pas donner écho à une chose essentielle qui est un des porte-parole gilets jaunes, pas tout à fait que autoproclamé, qui s'est fait reconnaître dans le Vaucluse et tout, tient des propos sur l'existence de groupes paramilitaires prêts à intervenir, donc il y a obligation d'en rendre compte. Et deux, on valorise un peu plus un type qui est quand même tout sauf valorisable. Donc on est pris dans une espèce d'étau dont il est difficile de sortir. Anne Fulda.
Oui, c'est vrai que c'est... Enfin, quand même, la question, enfin, vous venez de l'évoquer, c'est Chalençon, combien de troupes, quoi. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que ce mouvement de gilets jaunes est d'une opacité extrême, a quand même du mal à s'organiser. On voit bien que... Et d'ailleurs, ce qui est frappant et inquiétant, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui semble émerger, il se fait flinguer, entre guillemets, pour reprendre leurs expressions, menacé, vraiment menacé de façon directe. Donc, oui, on doit se poser la question sur est-ce qu'on donne la parole à ces gens-là ?
Gérard Courtois, on lui donne trop à Chalençon ou on n'a pas le choix vu ce qu'il déclare ?
Bah, de toute façon, il faut rendre compte de ce genre de propos parce qu'ils sont tellement délirants, mais significatifs, des fantasmes d'une partie la plus radicale de ce mouvement dans sa diversité. Mais il est évident qu'il y a un noyau radical qui refuse le grand débat, qui refuse toute construction politique que d'autres gilets jaunes essayent laborieusement d'explorer, c'est-à-dire des listes européennes, c'est-à-dire un débouché politique. Non, leur débouché politique, c'est le putsch, c'est la guillotine.
Là-dessus, j'ai une question. Est-ce que, dans vos journaux, à votre connaissance, on lance des enquêtes pour savoir si ces propos sur l'existence de groupes paramilitaires prêts à intervenir sont une vaste fumisterie, ou s'il y a une réalité derrière ? Vous me répondez dans 2 minutes.
Comme chaque samedi, on vous retrouve, Olivier Duhamel, avec Mediapolis. Et à vos côtés ce matin, Anne Fulda, journaliste au Figaro et auteur de Un jeune homme si parfait de chez Plon. Et Gérard Courtois, éditorialiste politique au Monde et auteur de Parti de campagne, la saga des élections présidentielles chez Perrin.
Et comme ça, chaque samedi, on retrouve les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, ils sont sur BFM TV, ils sont sur LCI, ils sont sur CNews. Ils sont partout. La série continue, le feuilleton pourtant commence à lasser. Écoutez Jean-Michel Apathy.
C'est la croissance qui souffre parce que la consommation baisse, donc la production va baisser et peut-être des gens qui voulaient investir se disent dans ce climat, on va retarder de quelques mois. Et donc c'est une chute de croissance et donc tout ça, ce sont des centaines de millions d'euros à charge de la collectivité, c'est-à-dire des contribuables. Et pendant ce temps, que font les leaders des Gilets jaunes ? Parce qu'on peut se poser la question quand même, est-ce qu'ils réfléchissent à tout ça ? Alors, on a l'impression que les leaders des Gilets jaunes préparent dans l'insouciance la plus absolue et l'égoïsme le plus total, la 14e journée de manifestation, c'est-à-dire samedi prochain. Et puis, quand on lit leur page Facebook, la 15e, la 16e et la 17e sont déjà en route, bien sûr. Le mot d'ordre des Gilets jaunes, ou l'un des mots d'ordre, c'est de faire payer les riches au nom de la justice sociale. Eh bien, pour l'instant, ce sont les contribuables, les commerçants et des salariés modestes qui trinquent, comme quoi il y a un peu une erreur du côté des Gilets jaunes quant au but à atteindre.
C'était l'éditorial de Jean-Michel Apathy mardi matin sur Europe 1. Alors au-delà d'Apathy, si on prend les médias dans leur ensemble et si on fait un petit zoom arrière et on revient aujourd'hui, il y a quand même une très très nette évolution. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier temps de sorte d'engouement pour le mouvement des Gilets jaunes et maintenant c'est plutôt l'expression du ras-le-bol qui domine. On peut résumer les choses comme ça ou j'exagère, Anne Fulda ?
Oui, on peut, même si ça reste quand même assez mesuré, et je dirais la même chose.
Assez mesuré, la titre du Figaro d'aujourd'hui, violence, oui, blocage, cette France tourne à assez.
Oui, le Figaro, mais le Figaro fait plutôt exception. Et,
le Parisien, c'est à peu près le même
acabit. Et je dirais la classe politique, et ce qui m'étonne le plus, c'est de la part de la classe politique, qui est assez discrète, qui a un discours très... très modérée quant aux gilets jaunes. Et on a l'impression qu'il faut se réfugier derrière soit certains éditorialistes ou journalistes, soit derrière un acteur comme Berléand qui a osé dire ras-le-bol des gilets jaunes. Comme si effectivement la plupart des politiques se disaient non, on peut pas aller à l'encontre des gilets jaunes, c'est trop dangereux électoralement, etc. Donc ça c'est un petit peu troublant.
Oui,
quand même.
Je comprends, très juste. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on continue à dire les gilets jaunes. Il y a 80% des gilets jaunes qui ne sont plus dans le mouvement, hein, si vous comparez ce qui s'est passé au début et ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc ce sont des gilets jaunes, si j'étais sévère, je dirais que ce sont des résidus de gilets jaunes qui protestent.
Oui, enfin, c'est vrai, et en même temps, il y a encore un soutien de l'opinion, une sympathie de l'opinion.
Voilà. Le soutien, c'est plus qu'un tiers. Hein.
Voilà.
Mais quand on rajoute la sympathie, puis qu'on fait comme si c'était global, et puis qu'on dit qu'il y a la majorité derrière, ce que les médias n'ont pas arrêté de faire pendant des semaines, évidemment que ça a servi le mouvement.
Oui, et en même temps, c'est ça aussi qui a donné consistance. C'est pas le nombre de manifestants qui a donné consistance à ce mouvement. C'est justement cette espèce de résonance.
C'est le soutien exagéré en plus par les médias.
Exagéré, je ne sais pas.
On distinguait très rarement soutien et sympathie, par exemple.
On parlait tout à l'heure d'un débat, d'un exercice démocratique inédit, mais le mouvement lui-même était inédit. Et en ce sens...
Oui, mais l'acte du sabi, l'inédit, ça commence franchement à s'estomper.
Bon, ça c'est clair que ça tourne en rond, puisqu'ils n'ont pas de débouchés politiques, ils ne veulent pas négocier, ils n'arrivent pas à construire un dispositif politique pour les Européennes, et ils veulent... comment il disait, M. Chalençon, démonter la clique.
Donc c'est parti des ronds-points, à l'arrivée ça tourne en rond, c'est assez logique. Et pendant ce temps-là, l'évolution en France sur d'autres fronts est assez sombre. On y vient après notre dernière pause.
La journaliste au Figaro Anne Fulda et l'éditorialiste politique au Monde Gérard Courtois sont vos invités ce samedi, Olivier Duhamel dans Mediapolis.
Et pour notre dernier sujet, il y a les chiffres. Plus 74% d'actes antisémites en 2018. Il y a l'image terrible de ces boîtes aux lettres devant la mairie du 13e arrondissement Place d'Italie sur lesquelles les portraits de Simone Veil ont été recouverts de croix gammées. Et il y a donc cette augmentation de l'antisémitisme. Écoutez ce qu'en disait la rabbin Delphine Orviller sur Europe 1 mardi matin.
On voit bien que la problématique, c'est pas tant la parole politique institutionnelle que la façon dont les citoyens vont s'en emparer. Moi, je me pose la question et je rêve ce matin à ce qu'il y ait, oui, une réaction nationale. Il se trouve que de semaine en semaine, il y a des gens dans les rues aujourd'hui en France. Je rêve d'imaginer que peut-être samedi prochain, le thème de cette manifestation, les panneaux qu'on y verra, seront des panneaux qui diront d'une certaine manière « not in my name ». C'est-à-dire que des gens pourront dire « pas en mon nom ».
Et... ça s'est produit du côté des partis politiques, d'ailleurs à l'initiative du Parti Socialiste, c'est la première vraie initiative du Parti Socialiste depuis des mois, du moins celle que l'on ait pu percevoir. Ça ne s'est pas produit du côté des Gilets jaunes, qui n'ont pas répondu aux rêves d'Delphine Orviller. Cette montée de l'antisémitisme, dans les peu de minutes qui nous restent, quels seraient les moyens les plus sûrs de la stopper et de la faire reculer? Gérard Courtois. Oui, je sais.
Delphine Orviller, non pas sur Europe, mais dans un entretien au Figaro il y a 2-3 jours, disait autre chose. Elle disait « on ne viendra jamais à bout de l'antisémitisme, oui, quels que soient les efforts qu'on fait ». Et elle disait également par rapport au mouvement des Gilets jaunes que s'il n'était pas dans sa nature... antisémite, il y avait un appel d'air à travers cette espèce de délégitimation des pouvoirs, de dénonciation des élites et de
cette terrible expression « libérer la parole » que je déteste, mais au contraire, suppression de tous les interdits, même les plus légitimes. C'est ça qui se produit.
Et c'est ce que dénonçait également Alain Juppé dans son propos de départ à Bordeaux.
Anne Fulda.
Oui, Delphine Horvilleur, elle disait précisément, parce que c'est moi qui l'ai fait cette interview, elle était très intéressante parce qu'elle disait justement les gilets jaunes ne sont pas un mouvement antisémite, mais parlent la langue antisémite, qui est une langue qui se développe, on le sait bien, lorsqu'il y a des moments de crise, des moments où on dénonce les élites, et tout ça, c'est un discours qu'on connaît bien. Et effectivement, il participe de ce climat délétère qu'a dénoncé Alain Juppé. Alors, vous parliez de cette initiative du Parti Socialiste, et elle est certes louable. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut se poser la question, qui a appelé à manifester contre l'antisémitisme la semaine prochaine. Pourquoi en exclure le Rassemblement National et la France Insoumise? C'est quand même étonnant. Alors que pour une fois, alors la classe politique, certes, qui est dans un moment où elle est délégitimée, décrédibilisée, mais pour une fois, la classe politique a été unanime pour condamner cette montée de l'antisémitisme. Pourquoi reprendre les vieux schémas et exclure le Rassemblement National qui, depuis que c'est Marine Le Pen, a quand même changé par rapport au Front National de son père?
Eh bien, une fois n'est pas coutume, mais avant la chanson, nous terminons cette émission sur la critique d'une exclusion portée à l'encontre du Front National. Toutes les opinions argumentées sont ici bienvenues. Et pour la chanson, et bien dans le fond, dans l'idée que peut-être qu'une des façons de lutter contre l'antisémitisme, c'est de diverses manières s'exprimer sur le sujet. Je voudrais rappeler que le poème de Louis Aragon, Strophe pour se souvenir, écrit en 1955 en hommage aux émigrés résistants du groupe Manouchian, tous fusillés au Mont Valérien, a été mis en musique et chanté en 1959 par Léo Ferré, qu'il a fait connaître sous le titre « L'affiche rouge », cette affiche de propagande raciste de Vichy. Merci Louis Aragon, merci Léo Ferré, merci Gérard Courtois, merci Anne Fulda, merci Jean-Luc Arblad, réalisateur, merci Paul Lassen. On se retrouve la semaine prochaine pour faire écouter l'émission en podcast sur Europe 1.fr.